11 novembre 2022, il est 17h. Tout de suite, le journal en français avec Rafika Taher. À la une, le président de la République, Bazoum Mohamed, a présidé hier la rencontre annuelle des magistrats. Il s'est engagé à lutter contre la corruption en milieu judiciaire pour une justice équitable au Niger. Vous suivrez un extrait de son discours dans un instant. Des cas de fièvre jaune ont été signalés dans certaines régions du Niger. Des détails avec le directeur régional de la santé publique de Tawa, une des régions concernées par la maladie. La partie magazine de cette édition parlera de la scolarisation de la jeune fille de la commune rurale de Kouré. Bonsoir à tous et bienvenue. La cérémonie de rentrée annuelle des magistrats du Niger s'est déroulée hier à Niamey. Le président de la République, Bazoum Mohamed, président du Conseil supérieur de la magistrature, a réitéré son engagement pour une justice équitable et accessible à tous dans le pays. Suivez un extrait du discours du chef de l'État sur des propos recueillis par Télé Sahel.
Dans l'architecture juridique de notre État, la justice constitue le principal régulateur de l'état de droit. En présidant le Conseil supérieur de la magistrature, j'en appelle au sens de responsabilité de chaque maillon de la chaîne judiciaire, tous qui ont une parcelle de pouvoir dans le fonctionnement de notre système judiciaire, à s'investir davantage pour mettre fin à certaines pratiques qui n'honorent pas notre système judiciaire. Je peux citer entre autres le retard excessif dans le traitement des affaires judiciaires, le refus de rédiger les décisions de justice dans les délais, et c'est très choquant parce qu'il s'agit de la vie des citoyens. La persistance de ces pratiques, je vous le promets, appellera de ma part des sanctions exemplaires, car nous devons nous convaincre que sans confiance entre les justiciables et les services publics de la justice, il n'y a pas de justice, tout simplement.
À Sharm el-Sheikh, les jeunes activistes nigériens continuent leur plaidoyer pour les financements de l'atténuation et de l'adaptation aux effets du changement climatique. Maman Harissou Thomas de l'organisation Jeunesse sahélienne pour le changement climatique est interrogée par Nouha Belaïd, la correspondante de la Fondation Hirondelle à la COP27 en Égypte.
Les effets du changement climatique sont extrêmement violente au Niger. Il y a des poches de sécheresse dans la saison de pluie qui peuvent s'étaler jusqu'à au minimum un mois. En ce qui concerne l'adaptation, nous faisons des plantations d'arbres, des récupérations des terres, et en ce qui concerne l'atténuation, nous utilisons des énergies renouvelables comme les panneaux solaires, les biogaz. La COP, c'est vraiment un plaisir de nous voir, nous les jeunes, se réunir en partageant des idées venant de divers pays. Dans le cadre du financement, nous voulons aussi que le fonds soit égal. Celui de l'adaptation soit à 50% et celui de l'atténuation soit aussi à 50% aussi.
Le comité international de la Croix-Rouge, également présent à la 27e édition de la conférence des parties sur le climat COP27. Il entend convaincre les partenaires en vue d'obtenir plus de soutien dans le cadre de ses activités dans la lutte contre les effets du changement climatique au Niger. Tidjani Adamou de la Croix-Rouge nigérienne explique. Il est joint au téléphone par Alassane Abdou.
Il s'agit dans un premier temps pour venir plaider pour un soutien des ressources financières plus accrues en faveur des communautés affectées par le changement climatique. Le Niger, notre pays, est le deuxième pays au monde le plus affecté par ce changement climatique. Alors nous avons une augmentation des inondations, une augmentation de la chaleur, de moins en moins d'espaces verts, sans compter les autres catastrophes naturelles. Dans un deuxième temps, il s'agit pour nous de marquer notre présence, notre visibilité en tant que la plus vieille et la plus grande organisation humanitaire au monde, avec près de 160 ans d'existence et plus de 5 millions de volontaires et de personnel dans 192 pays. Devant les partenaires, nous avons présenté une panoplie d'activités que nous réalisons actuellement au Niger aux côtés des autorités, notamment sur les activités d'adaptation au changement climatique.
Le balai traditionnel est très utilisé au Niger pour assainir les concessions des habitations. Mais cette année, on constate une chèreté de ce dernier sur les marchés à Dosso et à Niamey. Quelques vendeuses de Dosso expliquent les raisons de cette hausse du prix dans des propos recueillis par Nana Hadiza Hassan.
Je cultive le balai dans mon champ. Après, je récolte et je vends. Cette année, il se fait rare. C'est la raison de sa chérité. Nous vendons l'unité à 200, voire 250 francs, parce que la production n'a pas bien donné. Si tu trouves 2 à 3 plantes dans ton champ, tu enlèves, tu arranges et tu revends pour subvenir à tes besoins. La culture du balai est très rentable, mais elle est nuisible pour certaines cultures, comme le mil et le haricot.
C'est depuis l'année passée et cette année que c'est cher. Cette cherté est due à l'abondance du pilostigma reticulatum. Les gens se sont mis dans sa commercialisation. Mais cette année, ce n'est pas partout que c'est abondant. La saison pluvieuse a été bonne. Tous étaient contents, mais ce n'était pas le cas de tout le monde.
Le manque de balai est dû à la mauvaise saison. L'année passée, il n'y avait pas eu une bonne production de balai et le balai n'est pas à se mûr. Du coup, les graines ne tomberont pas pour une bonne germination.
Des cas de fièvre jaune signalés au Niger selon l'Institut Pasteur dans un article publié mardi. Les cas ont été enregistrés dans les régions de Dosso, Zender, Tawa et Agadez. À Tawa, les districts sanitaires de Madawa et Keita sont concernés. Des précisions avec Dr Issoufou Boubeya Kouba, directeur régional de la santé publique de Tawa, au micro d'Abdoulaye Aoussouk.
On a effectivement identifié 3 cas de fièvre jaune au niveau du district sanitaire de Madawa et également 1 cas au niveau du district sanitaire de Keita. Ce qui fait au niveau de la région globalement 4 cas de fièvre jaune. Et malheureusement, au niveau de Madawa, on a enregistré des décès concernant ces cas de fièvre jaune. Du coup, donc, le niveau central a décidé d'envoyer une équipe d'experts pour investiguer ces cas. Et c'est-à-dire, il faut d'abord vérifier est-ce que c'est des vrais cas de fièvre jaune et essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être la cause de survenir de ces cas de fièvre jaune et chercher à voir quelles sont les dispositions à prendre pour limiter ces cas-là et éviter la propagation.
Dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier, plus de 100 candidats à la migration ont été interceptés au poste de police de Kantié, région de Zender. Une réunion d'urgence a été convoquée à Matamai par les responsables administratifs et coutumiers du département en vue de prendre des mesures. Le chef de canton, Abdelkader Amadou Issaka, au micro de Habou Sarki Saleh.
C'est à nous qu'il incombe le devoir de trouver une solution à ce problème de migration. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Un projet, comme le disent certains, ne peut pas résoudre ce fléau. Il est inconcevable que nous, habitants de Kantié, que nous restons les mains croisées et regardez l'État. Nous ne devons pas dire que c'est à l'État de trouver la solution. Mais non, l'État c'est qui? C'est combien de villes? C'est nous qui composons l'État. Donc, c'est à nous, population de Kantié, de nous mobiliser ensemble pour arrêter ce phénomène. La pauvreté, mais est-ce que Kantié est grippé à une pauvreté aussi implacable qui va entraîner sa population à s'adonner à une telle activité de mendicité à l'extérieur pour mendier et trouver de quoi manger? Non. Quand c'est la période de campagne politique, on les voit sillonner toutes les zones rurales pour montrer leur largesse. Et pourquoi pas maintenant, par rapport à ce phénomène, et les dissuader sur les conséquences, ou bien parce que là, il n'y a pas de poste à chercher, et pourtant ces populations sont en difficulté, et personne ne dit mot. Cette population, c'est par ignorance, c'est à nous de les sensibiliser. Allez vers elles.
Le nouveau sultan du Katsina Maradi, Ahmed Ali Zaki, élu le 5 novembre passé, a regagné son palais ce matin. Pour sa première prise de parole en tant que sultan, il a appelé à la cohésion pour le rayonnement de Maradi. Il est au micro de Mohamed Maman.
Nous sommes rentrés dans la maison de nos aïeux. C'est une fierté pour moi, pour ma famille. Je remercie la population de Maradi qui s'est engagé corps et âme dans ma candidature et je les invite à m'accompagner dans ces responsabilités nouvelles qui sont les miennes et qui vont faire en sorte que nous puissions construire une véritable base de développement pour ce pays. Vraiment, nous invitons tout le monde. Il n'y a pas de différence entre prince aujourd'hui ou bien simple citoyen. Tout le monde est invité à venir et eux particulièrement parce que ils ont un grand intérêt pour qu'on construise cette ville-là ensemble.
Un grand patrimoine culturel et intellectuel, un des plus anciens en Afrique, appelé fonds de recherche, sont conservés à Niamey au niveau de l'Institut des recherches en sciences humaines, créé en 1944. Cependant, ces documents risquent des dommages si des dispositions ne sont pas prises, explique Mme Fatih Ousmane, conservatrice de la bibliothèque de Hirsch. Elle est au micro de Ali Tajissir Ahmed.
La bibliothèque de l'Institut de recherche en sciences humaines, son fonds documentaire s'élève à plus de 30 000 volumes et près de 250 titres de périodiques. Pour accéder à ces fonds-là, il faudra que le lecteur se munisse d'abord d'une pièce d'identité. Nous travaillons en collaboration avec les autres bibliothèques du Niger à travers un catalogue commun qui est sur un logiciel qui s'appelle PMB. Il nous reste seulement la numérisation de ce fonds ancien, de ce joyau-là. On a même établi un projet de numérisation assez parce qu'ils sont détériorés. Donc, il faudra les sauvegarder. La seule manière de faire, c'est de les numériser.
À Agadez, l'école primaire publique Tiro 3 rencontre des difficultés concernant les conditions d'études avec le froid qui s'installe. Selon Nafissa Amadou Moussa, enseignante dans cet établissement scolaire, il leur manque des classes et des tables bancs. On l'écoute au micro d'Ahmed Félan.
Nous avons seulement deux classes alors qu'on a quatre niveaux. Donc on a débuté avec une classe. Vraiment, on a des problèmes dans cette classe parce qu'il y a tout. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a même pas de la porte. On travaille même sur la natte. Mais avec l'aide de l'inspection, on a eu au moins 10 tables seulement. Nous sommes obligés de faire une classe comme ça. On a débrouillé, on a fait la réunion avec les parents d'élèves. On leur a dit de cotiser 1 000 francs, 1 000 francs. Ça n'a pas marché. Donc on a profité pour arranger une classe seulement, pour avoir une classe de CP. Mais maintenant, le CI, ils sont mélangés avec CE1, manque de classe. Le CE2, même, on est obligé d'aller à l'école Tiro Public 2 pour nous prêter au moins une classe. Parce qu'on a vraiment besoin d'aide d'État. Au moins, avoir quelqu'un dans chaque région qui va contrôler comment marchent les écoles.
Afin de permettre aux enfants, notamment les filles, d'aller à l'école de la commune rurale de Kouré, bien des actions ont été menées par les acteurs du secteur éducatif. Au niveau de l'inspection de l'enseignement primaire de Kouré, environ 6 000 élèves sont inscrits cette année, dont les filles représentent plus de la moitié. C'est une évolution comparée à l'année dernière, selon Wassalke Bachirou, inspecteur de l'enseignement. Il est au micro d'Ali Niali Abdoumoumouni de la partie magazine.
À l'heure actuelle, sur la base des inscriptions pour la rentrée 2022-2023, l'inspection communale de Kouré a 6075 élèves au niveau du primaire et des jardins d'enfants. L'effectif des filles est de 3206, soit 52,77%. Je disais que c'est des chiffres en fin octobre, puisque à la rentrée, souvent, les effectifs évoluent en bourse compte tenu du retard tardif du recrutement dans certains villages.
On n'a pas pu stabiliser les élèves du CI par manque d'enseignants.
Quels sont les obstacles à la scolarisation des filles dans vos écoles?
Le véritable obstacle, bon, certaines filles arrivées au collège dès la sixième, on les fait marier. Il y a aussi la pauvreté qui fait en sorte que souvent les parents utilisent les fillettes là aux tâches domestiques. Mais quand même avec les sensibilisations et les quelques partenaires qui nous ont en tout cas appuyés, je parle notamment de l'UNICEF, de Rêve, de la GIZ, de SwissAid, on a pu juguler un peu ces fléaux. Pour le moment, en tout cas, c'est surtout le manque d'enseignants. Parce qu'actuellement, dans beaucoup de nos écoles, on a recruté 50-100 élèves et il n'y a pas d'enseignants. À l'heure actuelle, j'ai un besoin de près de 40 enseignants, en tout cas, pour combler les classes de CI surtout.
Quelles sont les actions que vous entreprenez chaque année pour maintenir et faire accroître le taux de la scolarisation de la jeune fille?
Comme d'habitude, chaque année, on fait un programme, un plan d'action. La SCOFI a son plan d'action. Au niveau donc des CGDS aussi, il y a un plan d'action. Notre inspection fait partie de beaucoup d'écoles dans lesquelles cette année, un grand programme va intervenir, de 35 de nos 38 écoles. Et avec ce programme-là, en tout cas, il y a beaucoup d'actions que nous devrons faire en direction des villages. On a mis au niveau de chaque école un comité d'éveil qui veille aux droits des enfants. Et dès qu'il y a quelque chose, ce comité-là nous alerte et on essaie donc de faire en sorte que les enfants viennent à l'école.
Nous sommes au terme de cette édition. Merci d'écouter le programme de Studio Kalangou. Place dans un instant à Alamin Ouachar pour le journal en Tamashek. À 18h15, vous écouterez Mokhtar Hamadou pour le forum de la presse.